Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial sur l'e-commerce B2B. Donc, on a dit qu'on commençait vers 12h, donc on va avoir le plaisir de se voir ensemble pendant une heure et discuter en fait des challenges de l'e-commerce B2B avec quelques conseils concrets, pratiques de nos intervenants. Alors, je crois qu'on va pouvoir commencer. Il y a quelques personnes déjà qui sont connectées au live. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse déjà un petit tour de table. Alors, donc, on va peut-être faire honneur aux dames, puisque Chantal, tu nous as rejoint justement en tant que témoin, là, un petit peu à la dernière minute, pour nous remonter un peu ton expérience. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu as fait et ton profil.
Oui, donc Chantal Marie, ben, je suis responsable marketing chez Collégien, société vie depuis de nombreuses années, sur une entreprise donc industrielle dans le textile, pour laquelle nous avons monté des sites internet B2C et B2B. Et le B2B s'est fortement développé via ce créneau-là, puisqu'aujourd'hui, on a quasiment plus de commerciaux. Je pourrais témoigner là-dessus pour voir comment on a mis ça en place. Et là, actuellement, ben, je participe à l'association FEDEO, qui est l'association des e-commerçants en Occitanie, avec laquelle on monte de nombreux événements très intéressants.
Ouais, super. Merci Chantal. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un petit bruit de fond. J'entends quelqu'un taper au clavier. Alors, c'est possible de mettre en mute de temps en temps. Alors, je vais passer maintenant à Olivier. Donc, Olivier, notre Lillois, puisque là, on a bien compris que Chantal, tu étais dans le sud, vers Toulouse. C'est ça. Alors, Olivier, là, on va repasser à l'autre bout de la carte de France. Donc, tu es à Lille.
Oui, tout à fait. Ouais. Ben, bonjour à tous. Et puis, merci Fred pour l'invitation. Oui, moi aussi, je travaille dans le web. En fait, moi, je m'occupe d'une agence qui s'appelle WeExperience, que j'ai créée il y a 15 ans maintenant. Et on est une agence du X, donc nous, on accompagne les entreprises sur tout ce qui est refonte et design des parcours utilisateurs, alors notamment dans le e-commerce et e-commerce B2B. Donc, on essaie de faire que les sites soient faciles à utiliser, les parcours soient simplifiés, et qu'en fait, les clients, les prospects, les utilisateurs puissent facilement se concentrer sur ce qu'ils ont à faire sur ces sites-là, et puis que ça se fasse au bénéfice, évidemment, des e-commerçants.
Ouais, ça, c'est très vrai. Et on va finir par Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, je te laisse te présenter.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Merci Fred pour l'invitation. Le fait que j'ai plus de cheveux montre que ça fait un certain temps que je suis dans le e-commerce et notamment en B2B. Puisque j'ai lancé mon premier site e-commerce B2B en 1994. Sûrement dans l'éditoire qui n'était pas encore né. moi, ça fait 20 ans, j'ai une société de consulting qui aide les entreprises. Alors, c'est complémentaire par rapport à ce que fait Olivier, d'où on aide les entreprises à créer de la valeur avec le digital d'une façon générale et notamment à gagner de l'argent avec le e-commerce. Et actuellement, les deux tiers de nos clients sont des industriels en B2B. Et je pourrais témoigner parce que c'est toujours délicat de témoigner sur les cas clients, mais nous, on a toujours eu depuis 20 ans, on a un lab et un lab e-commerce. Et actuellement, on a un lab e-commerce en B2B. Voilà. Et on a aussi un lab en IA, mais bon, on en parlera rapidement. Voilà.
Alors, Jean-Paul, tu ne l'as pas dit, mais tu es aussi président de FEDEO, association toulousaine de e-commerçants et auteur de livres.
Oui. On a quelques vices, autant continuer. J'ai commis un livre qui s'appelle B2B et digital. Qui présente ce qu'on peut faire avec le digital en B2B, notamment pour les industriels.
Ok, super. Alors, je vous laisserai présenter tout à l'heure FEDEOF. Alors, ce que je vous propose, c'est, j'ai mis quelques chiffres et vous en avez donné quelques-uns. J'ai mis quelques enjeux du e-commerce en B2B. J'ai pris quelques chiffres de la FEVAD qui disait que 79% des acheteurs sont très satisfaits de la facilité de passer en ligne. Donc, on dit, finalement, 80% des gens qui sont contents, tout va bien. Pourtant, certaines personnes, 51%, à peu près la moitié, aimeraient être plus autonomes dans le suivi de leurs commandes. 48% faciliter la recherche de produits, 29% seulement on va utiliser un chatbot. Est-ce que l'IA, justement, c'est un enjeu dans le B2B? Et on voit quand même quelques déceptions, puisqu'il y a à peine 15%, donc une minorité très faible qui trouve ça intéressant. On voit également sur les améliorations, donc malgré le fait qu'ils soient plutôt satisfaits, ils veulent des fiches produits plus claires, à quasiment 40%, ils veulent un moteur de recherche plus complet, la possibilité à tout le monde de pouvoir contacter un conseiller, la démat, la simplification. Donc, il y a quand même quelques petites demandes. Alors justement, pour vous, quels sont les enjeux en fait de l'e-commerce B2B? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel? Parce qu'on entend beaucoup parler de l'e-commerce B2C, qui est vraiment le leader. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait se lancer et nous dire déjà qu'est-ce qu'il pense en termes d'enjeux? Je ne sais pas, Olivier, tu veux peut-être te lancer?
Ok, merci. Moi, je suis un spécialiste de l'expérience utilisateur, de l'expérience client. Alors, contrairement à Jean-Paul, moi, je viens plutôt du monde du B2C à l'origine, mais petit à petit, je me tourne aussi de plus en plus vers le B2B parce que, en fait, c'est encore un domaine où il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas fait leur mue digitale, déjà, premièrement. Et qui sont en train de la faire. Donc, on retrouve un petit peu en fait les besoins et les questionnements qu'il y avait au démarrage du e-commerce B2C, j'aurais tendance à dire, il y a 10-15 ans. Et un des enjeux essentiels, selon moi, bien sûr, c'est l'expérience. Et c'est non seulement, bien sûr, d'arriver à créer des sites e-commerce qui soient performants avec un certain nombre de fonctionnalités et de services, mais c'est aussi faire que les gens prennent vraiment l'habitude de les utiliser, de se sentir à l'aise sur ces sites, exactement comme ils le sont sur les sites de e-commerce B2C. Parce que finalement, les acheteurs en B2B, ce sont aussi les acheteurs en B2C. Et toutes leurs habitudes, tout ce qu'ils font aujourd'hui dans le digital, en B2C, en tant que particulier, ils vont essayer de le reproduire et de le refaire aussi en B2B. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un fort enjeu sur cette capacité pour les entreprises de pouvoir offrir des expériences. Ce que j'appelle des expériences, en fait, c'est un ensemble d'interactions, de gestes, d'échanges, etc. D'offrir un ensemble d'expériences qui soient de la même qualité que celles qu'on va retrouver en B2C. Bon, pour ne pas citer Amazon, qui était un peu l'exemple à suivre à une certaine
époque. Une bête noire aussi, quelque part. Pour les e-commerçants, ouais, Amazon, c'est une bête noire.
Ouais, moi je parle en termes d'expérience, hein, je parle pas en termes de marché, mais en tout cas, à une époque, ils étaient très innovants, ils avaient inventé beaucoup de choses et c'était vraiment l'exemple à suivre. C'est sans doute un petit peu moins maintenant, mais ce qui est certain, c'est que je pense que si les entreprises qui vendent en B2B veulent réussir leur passage à la digitalisation, et Chantal parlait tout à l'heure du fait qu'il y a quasiment plus de commerciaux dans leur entreprise, c'est symptomatique, ça veut vraiment dire que de plus en plus les acheteurs veulent du digital, veulent passer par le digital. Ils sont aussi de plus en plus jeunes, ce qui est bien normal. Et ils sont en train de forger leurs habitudes sur des tas de choses que nous, vieille génération, on n'a pas. Et je pense notamment à TikTok. Et donc, ils sont beaucoup plus exigeants. Ils veulent que ce soit simple, ils veulent que ce soit fluide. Et donc, si on n'arrive pas à offrir ça en fait à ses clients, on s'expose au risque en fait de créer des déceptions, à la fois en termes de facilité de navigation, mais aussi en termes de complexité de la prise de commande en ligne, ou même en termes de complexité de la recherche d'informations. Et c'est là-dessus, moi, je pense qu'il y a des choses à faire.
Ouais, donc on parle plutôt de complément, pas de remplacement, mais quelque part aussi, l'objectif, c'est d'arriver sur des gains de productivité. Moi, je vois, ma sœur est commerciale en B2B dans tout ce qui est produit pour les professionnels, et c'est vrai que la direction les incite à fond, à passer sur le digital, et en même temps, elle me dit, mais moi, il faut que j'aille voir mes clients. Parce que c'est ça, au fait, que j'arrive à créer du lien, et même si on n'a pas les meilleurs prix tout le temps, c'est ce relationnel, c'est décrocher des commandes. Comment on arrive à gérer cette dualité un petit peu difficile? Je ne sais pas si vous voulez donner un avis, Chantal.
Oui. Par rapport au gain de productivité dont parlait Olivier, effectivement, aujourd'hui, les commerciaux sur la route, c'est un coût très important. Hein, le commercial qui se lève le matin, qui prend sa voiture, qui prend un rendez-vous, c'est des coûts très importants. Et chez Collégiens, c'est vrai qu'on a rebasculé ça en fait en investissement pour notre site B2B, de façon à ce que les commerciaux, les boutiques en fait, commandent directement sur notre site internet. Et pour qu'elles arrivent directement, ce que l'on travaillait fortement était la notoriété de la marque, ben, via des salons, mais aussi via de la notoriété de marque, via les réseaux sociaux et notamment Instagram, de façon à ce que, ben, en fait, ce soit les revendeurs qui s'inscrivent directement sur notre site internet. Donc, c'est eux-mêmes, c'est le réseau social, en fait, qui fait la prospection quelque part. Et de là, les boutiques s'inscrivent sur le site internet. Évidemment, les commerciaux, mais ça peut être du coup un commercial sédentaire, va contrôler que la boutique corresponde parfaitement à l'identité de la marque. Et ça, je pense que c'est très important de donner une belle image de marque et une belle représentativité, parce que les marques, elles n'ont pas forcément envie d'aller dans toutes les boutiques, mais il y a une sélection par rapport à l'ADN de la marque, et ça, je pense que c'est très important.
Ouais. Et donc, Jean-Paul, tu voulais aussi rajouter 2-3 mots, puis après, je crois que, Olivier, tu nous parlais 3 enjeux autour de la techno, autour de l'omnicanal, mais je laisse peut-être Jean-Paul nous dire quelques mots.
Oui, en fait, nous, on a fait, quand on a vu qu'à Stratégie, là, on a fait une étude auprès d'acheteurs professionnels, et on leur a demandé quelles étaient leurs pratiques et leurs attentes. En fait, ce qui ressort, c'est d'abord que déjà les acheteurs professionnels achètent, passent des achats et bien sûr s'informent sur Internet, puisque notre enquête, c'est par rapport à des acheteurs, par rapport à de l'industrie, par rapport à de la santé, et par rapport à l'agroalimentaire. On sait qu'agroalimentaire et grande conso, un tiers commande sur Internet au moins une fois par semaine, hein, dans le cadre de leur métier d'acheteur pro. Plus de 40% y réalisent la moitié ou plus de leurs achats. Donc, on peut déjà dire qu'il y a un impact extrêmement important. Alors, on peut estimer qu'actuellement, le e-commerce B2C, c'est 160 milliards, d'après les chiffres de la FEVAD. Les chiffres que l'on a, alors la difficulté d'avoir des chiffres en B2B, c'est qu'il y a une bonne partie qui n'est pas transactionnelle directe, c'est-à-dire que ça passe pas par le consortium Carte Bleue, Visa, etc. Et donc, du coup, ben, la FEVAD, elle bec dans l'eau, et puisqu'ils n'ont pas leur petit rapporteur pour leur donner des chiffres, mais quand on fait des estimations, quoi, les études qu'on a pu voir, c'est que on est au moins à 2 fois, le e-commerce B2B, c'est au moins 2 fois le volume du e-commerce B2C. Hein. Donc, c'est déjà hyper impactant. Hein. Donc, on a déjà des usages qui se mettent en place. Et si je rebondis là par rapport aux échanges là avec Chantal et Olivier sur la place du commercial, hein, et puis ta sœur Frédéric, c'est si tu veux, nous ce qu'on évidemment c'est une question qu'on a posée sur les acheteurs professionnels, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bah ça change ma relation avec les commerciaux, j'ai plus besoin de les voir aussi souvent, parce que s'il s'agit juste de remplir un bon de commande, ben autant que je le fasse en ligne. Hein. Si ça, c'est juste compléter une information technique, etc., je peux l'avoir en ligne. Hein. D'ailleurs, ça, c'est des besoins hyper importants, mais on y reviendra. Et par contre, 40% des acheteurs professionnels nous ont dit, mais je souhaite tout de même pouvoir avoir une relation avec des commerciaux. Bon, ça veut dire tout de même qu'il y en a 60% qui disent j'ai plus réellement envie de voir des commerciaux. Mais les 40%, c'est quand c'est important finalement, qu'on a besoin, et je vous rejoins tous, c'est de dire finalement j'ai besoin d'un être humain quand la machine ne peut pas me répondre. Hein, quand j'ai besoin, j'ai un problème, puis surtout, ben, on est dans un environnement B2B, donc j'ai besoin de finesse dans la réponse, et à partir de là, j'ai besoin qu'un commercial, sans doute généralement sédentaire, puisse me répondre. Hein.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite question là de Sylvain qui dit, est-ce que vous pouvez me rappeler brièvement quelle est la différence entre l'e-commerce B2B et B2C? Donc, je vais le faire rapidement. Le B2C, c'est vendre à des particuliers. Le B2B, c'est vendre à des entreprises. Comme je disais, ma sœur qui travaille dans les vêtements professionnels, matériaux pour les professionnels, ça peut être également, moi, j'ai mis en place un chatbot pour Aqualux qui vendait à la grande distribution, à la distribution spécialisée. Et donc, leur site e-commerce, e-commerce était dédié aux distributeurs. Ça peut être aussi, j'ai travaillé pour un énergéticien qui s'adressait aussi aux entreprises et aux particuliers. Donc, c'est B2C, B2C. Et on peut faire du B2B2C où ce sont des entreprises qui vendent à des entreprises qui vendent à des particuliers. Donc là, on complexifie un petit peu la chose. Alors, Olivier, ouais, vas-y, je t'en prie.
Non, mais juste, nous, donc, notre site de e-commerce, là, qui s'adresse essentiellement à des artisans, ça s'appelle La Sélection du Pro, je me permets, ceux qui seraient intéressés par un code promo, qui n'hésitent pas à me contacter, et, bon, c'est une blague. On voit bien que il y a une frontière, et je rejoins tout à fait ce que disait Olivier à l'instant, c'est que le marché est éduqué par Amazon, hein, faut pas se leurrer. On les aime, on les aime pas, il n'empêche, c'est eux qui sont puissants. Hein. Il y a qu'à regarder les principaux sites de e-commerce B2C en France, on a bien Amazon, donc tout comme nous adorons le McDo. Et c'est eux qui éduquent le marché. Et bien sûr, le professionnel vient sur un site B2B avec des habitudes et des exigences qu'il a par rapport à son expérience en tant que consommateur. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ouais, alors j'ai mis dans le chat là l'adresse de laselection-dupro.fr avec des pantalons bosseurs que l'on voit ici. On verra un
petit entre autres.
Alors justement, là on revient sur quelques enjeux. Tu m'as dit qu'il y a, toi Olivier, il y a trois enjeux pour toi, un enjeu technologique, un enjeu omnicanal et un enjeu IA. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et puis après Jean-Paul, toi qui a créé un assistant IA justement sur la partie fidélisation, est-ce que tu pourras donner un petit peu plus d'infos sur pourquoi c'est essentiel d'intégrer l'IA dans l'e-commerce B2B?
Moi, je vais répondre à la question des enjeux, mais je vais essayer de faire vite parce que sinon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'aurais pas occupé tout le temps de parole. Mais je pense qu'il y a trois enjeux aujourd'hui pour les e-commerçants. Alors, le premier qui est le plus évident, c'est évidemment l'enjeu technologique, parce que je crois que faire du e-commerce B2B, c'est pas se contenter simplement d'avoir un site de e-commerce avec, on va dire, en simplifiant un panier d'achat et puis une liste de produits, puis un moyen de paiement. Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Et j'en veux pour preuve, en fait, le changement de modalité d'achat. Effectivement, on a de plus en plus de gens qui veulent acheter en digital, mais ils veulent pas qu'acheter, en fait, ils veulent aussi du service, en fait, ils veulent du conseil, ils veulent de l'information. Et c'est en ça que je pense que l'enjeu technologique aujourd'hui, il est sur le bon choix de la plateforme, où il ne s'agit pas juste de dériver. Alors, je vais citer PrestaShop, qui est une très bonne solution, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on le voit beaucoup utilisé en B2B, mais on arrive vite aux limites B2B de PrestaShop, en fait, parce que ce n'est pas un outil qui est fait pour ça au départ, et on va vite se retrouver face à des contraintes technologiques, des problématiques d'extension, en fait, de l'offre de services et de connexion à d'autres plateformes qu'on n'aurait pas en choisissant une plateforme e-commerce B2B déjà spécialisée là-dessus.
Donc, alors justement, est-ce que tu peux donner ouais, ça serait quand même intéressant de donner un petit exemple, parce que PrestaShop, comme tu l'as dit, c'est comme un leader, t'as Magento, etc. Quelles sont, toi, les deux, trois limites que tu dirais, je le mets en B2B, et là, crac, ça coince. Et quelle plateforme tu recommanderais, par exemple?
Alors, les plateformes, je peux en citer. En B2B, il y a Eurocommerce, hein, qui est un dérivé de Magento. En fait, c'est les mêmes développeurs que Magento. Nous, on travaille avec Intershop, je les cite, hein, c'est notre partenaire.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment une solution spécialisée là-dessus, c'est vraiment une plateforme. Et justement, en fait, ce genre de plateforme, l'intérêt, c'est qu'elle fournit des noyaux de développement, mais c'est pas une solution tout en un. Et donc, on va pouvoir développer des choses plus spécifiques pour le B2B. Je pense à des commandes en masse, je pense à la commande par plusieurs acheteurs en même temps, je pense à la génération de devis. Je pense à tous les connecteurs qu'il peut y avoir avec tous les systèmes d'information qu'on va avoir en B2B, qui sont quand même beaucoup plus complexes qu'en B2C. Par exemple, tout ce qui est recommande pour des fournitures de machines ou de matériel, ça va être automatisé en B2B. C'est pas des choses qu'on a forcément en B2C. Donc,
Cet aspect productivité qu'il n'y a pas en B2C, parce qu'en B2C, tu fais des achats un petit peu ponctuels. En B2B, il y a beaucoup de récurrence, c'est ça.
Il y a beaucoup de récurrences, et puis on a aussi des typologies d'acheteurs qui sont variables. On parlait de B2C tout à l'heure, ou de B2B2C, et typiquement, on va avoir des e-commerçants qui vont vendre à la fois à des particuliers, à des pros, ou à des entreprises. Je pense, c'est un exemple, je pense à Kiloutou, par exemple, ils ont une clientèle, alors c'est très connu dans le B2C, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, leur business, c'est 95% du B2B, Et dans ce B2B, on a des artisans qui sont comme des particuliers, mais aussi des grosses entreprises. Et ça impose d'avoir des parcours d'achat, des parcours de commande qui sont différents. Et ça, si au départ, vous partez avec une solution B2C, ça va vous créer évidemment des développements supplémentaires non anticipés qui risquent de coûter cher à force. Alors que si vous partez avec une solution B2B, elle aura déjà anticipé toutes ces problématiques et ça coûtera moins cher au final. Donc, voilà un peu sur l'aspect technologique. Et si tu permets juste...
L'omnicanal, ouais, vas-y, l'omnicanal et l'IA.
Ouais. Oui, alors sur deux points, et puis il y a l'omnicanal et l'IA. Alors l'IA, je pense qu'on va en parler beaucoup forcément parce que c'est vraiment le sujet du moment, mais sur l'omnicanal, très rapidement aussi, c'est vrai qu'une des attentes des acheteurs, c'est d'avoir des systèmes d'information, des sites e-commerce, des moyens de contact et de mise en relation qui soient centralisés. C'est-à-dire qu'en fait, demain, moi, je suis acheteur pour une entreprise. Si j'ai besoin de consulter l'état d'une de mes commandes, il faut que je puisse le faire directement depuis une application mobile ou depuis mon ordinateur portable. Mais il faut aussi que quand j'appelle le service client derrière, ils aient la même information que celle que je vais trouver sur le site. Donc, il faut arriver à créer ces expériences qui soient omnicanales, qui soient fluides. Ça encore, c'est des choses qui ont été surmontées depuis pas mal d'années en B2C. Mais en B2B, on a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à rentrer en fait, dans toute cette automatisation, cette fluidification des parcours. Et c'est un véritable enjeu parce qu'encore une fois, ça va être une demande de plus en plus pressante et prégnante des acheteurs. Et puis,
ouais. Et un mot vite sur l'IA. Ouais. Il y a Romain Revlo qui disait qu'il y a certes cet aspect parcours, canaux, mais également les canaux internes, comme il disait, dans les grosses boîtes, il y a également de la délégation et des workflows qui sont importants qu'on ne retrouve pas en B2C.
Complètement. En B2B, on va avoir des équipes entières qui vont acheter, enfin, quand je dis des équipes entières, on peut avoir plusieurs processus de décision d'achat avec 3-4 personnes qui vont valider une commande. Alors, on est vraiment dans une complexité qu'on n'a absolument pas en B2C. Et alors, juste pour terminer vite fait sur l'IA, parce que je pense que tout le monde, c'est le gros sujet depuis 1 ou 2 ans, et ça va être encore le gros sujet dans les années qui viennent, mais ça va être aussi clairement un gros enjeu pour tous les e-commerçants, que ce soit en B2B ou en B2C. Mais juste pour vous donner un exemple, moi j'avais lu un article très intéressant, alors c'était encore sur le blog d'Intershop, mais je le trouvais assez pertinent, au sujet des agents IA, qui est un peu le dernier truc à la mode, on va dire, dans l'IA. Qui sont censés pouvoir accompagner en fait soit les acheteurs, soit les commerciaux en fait dans leur quotidien. Et cet article disait quelque chose de vraiment intéressant, c'est que dans beaucoup d'entreprises industrielles, par exemple, on a des commerciaux qui n'arrivent pas à traiter en fait toutes les demandes entrantes. Ils en ont tellement qu'en général, ils se concentrent sur les plus importantes, celles qui vont générer le plus de valeur pour eux et pour l'entreprise, mais ils vont mettre de côté beaucoup de demandes. Qui sont des petites demandes, entre guillemets, qui sont un peu la longue traîne du e-commerce, parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, en temps, ni les moyens techniques de les traiter. Et c'est là où l'intelligence artificielle devient intéressante, c'est qu'elle va pouvoir gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout un tas de demandes, de problématiques qui sont traitées habituellement manuellement, automatiquement, sans jamais être fatigué, sans jamais s'ennuyer. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire pour beaucoup d'entreprises dans le traitement, en fait, de la relation client, dans ce qu'on appelle toujours la longue traîne. Voilà. Ouais.
Alors, juste avant de passer à Jean-Paul et Chantal, il y a une petite question de David qui dit « Quid de la multitude des portails liés à la multitude des fournisseurs ? Est-ce qu'il y a une solution pour unifier tout ça ?»
Alors, oui, bonjour David. Petit à petit, le ménage va se faire, hein, puisque il y a une vingtaine d'années, on avait ces fameuses verticales par grand métier. Hein. Ensuite, on a vu que ça s'éclatait à droite à gauche. On va finir par avoir des acteurs qui vont devenir prééminents, c'est clair. Mais ensuite, comme le soulignait justement Olivier, ce qu'il faut bien voir, et c'est aussi David dans un de ses posts précédents, c'est que on a la nécessité d'avoir une personnalisation, une adaptation très très forte en B2B, notamment au niveau industriel. Donc ça veut dire que les outils comme le soulignait également Olivier, eh bien, il y a nécessité de non seulement gérer des workflows, mais également de s'adapter en fonction des typologies d'offres, les couches de services, hein, parce que la servicisation, c'est-à-dire vendre du service plutôt que uniquement du produit, c'est tout de même un enjeu clé, pour le B2B. Donc, oui, il y a une technicisation qui est forte, si ce n'est que petit à petit, mais ça, c'est encore un sujet sur lequel peut-être qu'on pourrait avoir un autre live, c'est le fait que petit à petit, on arrive sur du e-procurement, c'est-à-dire que en fait, on va s'intégrer dans le système d'information de ses clients. Alors, quelqu'un demandait un exemple de site B2B. Alors, le problème, c'est que souvent, les sites de l'e-commerce B2B ne sont pas forcément ouverts à ceux qui ne sont pas potentiellement clients. Mais il y en a un de nos clients, d'ailleurs, qui s'appelle Roberté. Donc, il y a e-roberté, par exemple, e-roberté.com, qui est un site B2B à destination de petits clients.
Ok. Alors, si on peut continuer sur... Je vais mettre le lien, comme ça, on pourra se rendre compte. Si on peut continuer sur l'IA, puisqu'en fait, là, il y a une remarque de Samuel, hein, qui dit, Samuel Bourri, qui dit, voilà, l'IA peut maintenant, peut qualifier les demandes d'entente et faire des chiffrages techniques. Alors, toi, donc, Jean-Paul, qui a créé une IA sur la fidélisation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton avis sur l'importance de l'IA et qu'est-ce qu'on va faire en B2B ? Parce qu'on voit très bien les chatbots, on voit très bien les callbots, on voit bien l'analyse aussi qu'on peut faire des données en langage naturel. Qu'est-ce que ça va changer dans le B2B et à quoi il faut s'attendre? Quelles sont les fonctions qu'il va falloir implémenter en termes d'intelligence artificielle dans l'e-commerce B2B?
Alors, le premier point, c'est qu'il y a une grande différence entre l'utilisation de l'IA générative, des agents, on va dire, et d'une IA qui sera plus une IA de prédictive. Nous, par exemple, on a nos intelligences artificielles. On en a une qui fait du prédictif, hein, c'est-à-dire que plutôt que de demander aux gens qu'est-ce que vous voulez commander, hein, donc à des acheteurs professionnels, qu'est-ce que vous voulez commander, on essaye de prédire quand est-ce qu'ils vont acheter et ce qu'ils vont acheter. Donc, du coup, on va limiter la charge mentale parce que un des axes majeurs, et on va y revenir peut-être, un des axes majeurs quand on demande aux acheteurs professionnels pourquoi vous utilisez le e-commerce, c'est avant tout pour gagner du temps. Le mieux, c'est tout de même de leur prémâcher le travail. Et ça, l'IA est capable de le faire en termes de prédiction et en termes de suggestion. Alors, je connais bien l'enthousiasme de Samuel pour l'IA, mais une des problématiques tout de même qu'on a avec l'IA générative, c'est que on est obligé de lui donner un cadre très contraint, hein, parce que évidemment, comme c'est du génératif, ce n'est qu'une vision probabiliste des choses. Et est-ce qu'on peut se permettre en B2B avoir une vision probabiliste des réponses? On est obligé d'avoir tout de même un champ de connaissances qui est hyper contraint, parce que il faut se rappeler que l'IA générative a fait perdre pas mal d'argent, par exemple à Canadian Airlines. Alors c'était du B2C, mais parce que le chatbot avait proposé des promos qui n'existaient pas. Et le juge a dit, si, c'est le chatbot, c'est vous. Donc, je préfère ne pas voir ce qui peut se passer quand on va faire des suggestions de vannes ou de choses comme ça.
Choisir de mauvais produits, ça peut vraiment faire mal.
Voilà. Donc, du coup, il vaut mieux raisonner je veux pas faire de la technique, mais en RAG ou des choses comme ça, c'est-à-dire contraindre, en fait, hein, le champ des possibles, le champ de l'apprentissage et le champ des progressions. Hein. Et puis, moi, je pense qu'il y a un autre élément qui est super intéressant, c'est que en B2B, on connaît ses clients et on les connaît fortement, non seulement par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, par rapport aux interactions qu'il a eues avec nos outils, qu'ils soient e-commerce ou autres, nous en tant qu'entreprise, et puis également, ça permet de savoir qui sont ces gens et quelles sont ces entreprises, parce qu'on peut aller faire un peu de scrapping, n'est-ce pas, Fred? Oui. Et donc, du coup, on peut avoir pas mal d'informations sur les clients. On a des expérimentations là-dessus, qui est assez intéressant, de pouvoir être force de proposition, donc faire gagner du temps, être pertinent, puisque c'est tout d'un coup ce que cherche notre client professionnel quand il va sur nos sites.
Ouais. Alors sur l'IA, justement chatbot, callbot ou sur l'omnicanal, est-ce que Chantal, tu aurais un petit retour d'expérience à nous partager?
Sur la partie B2B, moi, par expérience, ce qui est très important, c'est de bien comprendre le fonctionnement de nos clients et concevoir des sondages pour comprendre réellement leurs besoins, parce que les besoins des revendeurs ne sont pas les mêmes que les consommateurs. On a par exemple des revendeurs qui achètent deux fois par saison parce que c'est des collections, il y a une saisonnalité dans le textile par exemple. Et il y a également la partie commande directe selon un stock dédié, et ça c'est quand même très important pour des entreprises textiles notamment, oui. Où il y a de nombreux points de stock entre les coloris, les tailles, etc. Ça prend des proportions très importantes. Et que le revendeur commande d'abord ce qui est en stock, en termes de gestion de stock, c'est quand même très judicieux, quoi. Effectivement, ça aide beaucoup.
D'accord. Alors, si vous voulez, on va peut-être passer maintenant à la partie bons conseils et bonnes pratiques. Alors, on va peut-être repartir dans le sens. Olivier, je te laisse peut-être commencer, puis ensuite on redescendra vers vous. Alors, quels sont tes conseils et bonnes pratiques pour justement améliorer l'efficacité, la productivité, la conversion du site e-commerce B2B? Alors, quels sont tes recours? Je sais que tu vas nous parler d'UX, parce que c'est ta grande spécialité. Alors, dis-nous quels sont tes bons conseils.
Je vais rebondir sur ce que disait Chantal. En fait, connaissez vos acheteurs, connaissez vos clients. En fait, c'est vraiment la première chose à faire. En fait, je parle en termes de refonte de site, là, parce que c'est des sujets qu'on a souvent à traiter, nous, chez O-Experience. Et je pense que trop souvent, les entreprises partent avec des préjugés, en fait, sur leurs propres clients ou leurs propres prospects, en s'imaginant certaines choses et en appliquant des recettes toutes faites. Et je pense qu'une des choses les plus importantes, si on veut vraiment arriver à se différencier en e-commerce, c'est d'arriver vraiment à comprendre les besoins spécifiques de la population cible, en fait, des clients cibles qu'on va avoir. On peut faire ça évidemment de tout un tas de manières différentes. Alors nous, étant spécialistes de l'expérience utilisateur, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est des études utilisateurs. C'est vraiment, on travaille avec des panels très réduits, par exemple d'acheteurs en B2B, et on leur fait utiliser des sites, le site de l'entreprise ou des sites concurrents, et on essaie de regarder un peu avec eux ce qui se passe, comment ils cherchent, quels sont les détails qui les intéressent, quelles sont les informations aussi qui vont les faire aller plus loin. Et ça, c'est vraiment seulement en rentrant dans ce détail qu'on arrive à trouver les petits points qui vont faire la différence, je pense, avec les concurrents. Parce que sinon, on a trop tendance à faire ce que fait tout le monde. En fait, on se copie les uns les autres, ce qui est normal, évidemment, mais en fait, qui n'est pas suffisant, je pense, pour aller plus loin. Donc, et dans le digital, ça joue beaucoup, puisqu'on est... En fait, les gens sont seuls face à l'écran. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de commerciaux avec eux, hein, la plupart du temps. Donc, ils vont prendre leurs décisions tout seuls et la moindre petite information.
Ouais, le doute, la personne ne va pas commander, va faire confiance à son fournisseur, le va appeler au téléphone, etc. Et tu as quoi comme expérience, ou Chantal, c'est quoi vos expériences là-dessus, sur ces petits trucs qui font la différence?
Là-dessus, effectivement, le revendeur, en fait, il a besoin de conseils et il a besoin d'éléments de vente, puisque lui, en fait, il achète des produits qu'il va revendre. Donc là, il est très important de pouvoir lui apporter du conseil avec les meilleures ventes, la courbe de vente des produits qui se vendent le mieux, faire des podiums, les accompagner dans ce sens. Alors que le consommateur, lui, il a besoin du produit qu'il veut acheter, il est moins tributaire de tout ça. Mais là, il y a une activité commerciale que fait habituellement le commercial lors de ses visites. Donc, tout ça, il faut arriver à l'illustrer en digital, quoi.
Ouais. Ouais. Donc, on a parlé d'analyse et de qualitatif, des entretiens qualitatifs. Est-ce que vous faites également du screen recording, par exemple OJAR ou des choses comme ça, pour justement voir qu'est-ce que font les personnes et voir s'il y a des choses à améliorer?
Oui, complètement, on fait ça. On fait du click mapping, du screen recording, du scroll mapping. On fait des stats. Ça nous permet d'avoir des idées dans les grandes masses de ce qui se passe sur un site, de vérifier par exemple que les gens vont bien regarder toute l'information qu'il peut y avoir sur une page en scrollant jusqu'en bas, ce genre de choses. Mais on trouve que la meilleure approche, nous, c'est toujours d'arriver à mixer les deux, un peu de quanti, un peu de quali, des interviews, etc. Ça permet d'avoir une vision assez 360, on va dire, de ce qui se passe vraiment sur son site, hein, quand on a un site. Et c'est comme ça, après, qu'on peut commencer à corriger un peu les choses, à améliorer l'expérience. Et je reviens encore une fois sur ce que disait Chantal par rapport à l'information. C'est vrai que remplacer un commercial, entre guillemets, par un site web, alors bien sûr, ce n'est pas le but, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les gens ont tendance à essayer de contacter le commercial en dernier ressort, quand il n'y a vraiment plus d'autres possibilités. Si je puis dire. C'est un peu SOS commercial, j'arrive pas à trouver l'info sur le site. Et justement, c'est là qu'il y a un vrai enjeu d'arriver à faire que les sites soient bien structurés, qu'ils soient clairs, qu'on trouve vite l'information. Et ça, c'est important. Et donc, mon deuxième conseil, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est d'arriver à personnaliser le plus possible, en fait, ce qu'on propose aux gens pendant leur navigation. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est la personnalisation des filtres. Quand on cherche un produit, alors habituellement, quand vous allez, je prends au hasard Leroy Merlin, c'est du B2C, mais vous savez, quand vous cherchez des outils, etc., vous avez des listes de filtres, et c'est très statique la plupart du temps, ou alors c'est déterminé par des êtres humains à l'avance, après des études. Et aujourd'hui, il y a des solutions IA qui sont très très intéressantes, qui permettent de générer en fait en temps réel et à la volée ces différents filtres en fonction des produits et des catégories de produits. Donc en gros, il n'y a pas d'humain derrière, c'est l'IA qui décide. Par exemple, je cite toujours l'exemple des perceuses, je ne sais pas pourquoi je vais avoir une obsession avec ça, mais par exemple, qui va trouver elle-même les filtres qui vont être les plus pertinents pour l'utilisateur. Alors ça, c'est pour le B2C, mais ça marche aussi pour le B2B. Et comme disait Jean-Paul aussi tout à l'heure, une des grandes différences, un des gros intérêts, je trouve, de B2B, c'est que les clients, on les connaît bien en général. On a une relation très très longue avec eux, parce qu'en fait, un client B2B, une fois que vous l'avez signé, c'est souvent pour de longues années, contrairement au B2C. Et ça aussi, c'est très très important de le savoir et d'en tirer parti, parce que à ce moment-là, vous pouvez commencer vraiment à faire des choses très personnalisées, et il n'y a rien de mieux, en fait. Parce qu'encore une fois, si on cherche à déléguer au digital une partie de la fonction commerciale, il faut quand même qu'on arrive à retrouver dans ce digital ce qui fait le sel de la relation commerciale, c'est l'humanité, en fait, c'est la personnalisation, c'est la connaissance. C'est ça qui fait qu'on achète chez quelqu'un. Ben voilà, donc il faut arriver à personnaliser.
Alors Jean-Paul, tu parlais aussi dans la préparation du fait qu'il faut s'adresser et s'adapter aux nouvelles générations. Les millennials, les Gen Z, n'ont pas les mêmes habitudes, c'est ça?
Oui, je vais juste rejoindre Olivier. Oui, moi, je suis un fan des tests d'utilisabilité, hein, puisque c'est ça, c'est avoir quelques utilisateurs dans sa cible et faire du comment dirais-je, avoir une analyse approfondie de ce qui fait que on va induire une préférence. Et cette préférence, c'est en effet en fonction d'une personnalisation, mais une personnalisation qui est liée à un métier et à des attentes dans un cadre professionnel, sachant qu'en plus, il peut y avoir un certain nombre d'intervenants pour le même achat. Donc ça, c'est un point clé. Sur les filtres, ben, j'ai vu Fred que tu as mis le lien Hiroberté, ben, vous verrez que par exemple, les filtres ne sont pas les mêmes en fonction des typologies de produits. Et encore, vous n'êtes pas logué, donc vous n'avez pas l'entièreté de l'expérience. Mais alors, nous, dans notre étude, on a vu que le gap, c'était les plus de 50 ans, en fait, hein. Les plus de 50 ans, en tant qu'acheteur pro, avaient un peu plus de mal à sauter le pas. Après, évidemment, il y a des gaps générationnels, mais je dirais que l'élément clé, c'est tout de même le fait que les moins de 50 ans, on va dire, donc c'est encore large, eh bien, et plus on va vers des générations qui ont été élevées avec le web, il y a des attentes directes, c'est-à-dire qu'on ne pense même plus à passer un coup de fil à un commercial, quoi. On s'attend à avoir toutes les informations, ces niveaux de stock, parce que ça, c'est hyper important, hein. Qu'est-ce qui est important finalement en B2B? C'est de savoir trouver les produits ou les services, avoir les stocks, ça, c'est super important, hein, c'est ce que disait Chantal, et avoir mes prix, hein. et savoir quand est-ce que je vais recevoir la marchandise. Hein, parce que parfois, là je discutais avec un de nos clients hier, finalement ce qui est le plus important, c'est d'avoir la date et la certitude que cette date sera retenue parce que j'ai peut-être une usine complète qui est en train d'attendre la marchandise. Et que ce soit de l'huile essentielle, de la cire pour bougie ou ce qu'on veut, c'est hyper important. Donc, les enjeux en B2B sont très importants. Hein. On peut avoir une usine qui s'arrête parce que on n'a pas tenu, on n'a pas été clair avec une date de livraison ou avec les caractéristiques d'un produit. Alors, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Hein. C'est au niveau générationnel, oui, ça devient une évidence, comme l'IA, hein, et l'utilisation de l'IA devient aussi une évidence par rapport aux jeunes générations.
Ouais, et tu disais,
qui ont été élevés avec l'IA. Ouais,
et tu disais que le prix n'était pas forcément le plus important. Non. Ce qui était souvent, c'était gagner du temps, la personnalisation et comparer également les produits. Ça, c'est des choses qui sont clés pour réussir. Quoi. Pas trop d'ailleurs de positionnement prix. Enfin, tu disais que pas trop d'agressivité, plutôt des offres cadeaux, pas trop de remises, etc. C'est ça.
Oui. En fait, on vend du facilitant, hein, parce que de toute façon, on a bien vu. Hein, je reviens là sur ce dont parlait là, David dans le chat. Il y a eu une mode des portails, notamment des enchères inversées, etc., pour essayer de faire baisser les prix. Mais on s'est rendu compte, et on se rend compte qu'en B2B, dans 80% des cas, le prix n'est pas la donnée clé. Ce qui est clé, c'est l'identification des offres, c'est la disponibilité, etc. Ça, c'est un facteur qui est plus important que celui du prix. Quoi qu'on dise l'acheteur au moment de la négociation. Mais on le sait tous. Par contre, il y a par rapport aux nouvelles générations, ce que l'on voit de pointer de plus en plus, ce sont les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Et pas que LinkedIn. Hein, quand je rebondis là rapidement sur ce dont on parlait Olivier tout au démarrage, on se rend compte que les réseaux sociaux, y compris dans un environnement B2B, y compris industriel, eh bien c'est ce qu'on disait au démarrage, c'est que finalement nos acheteurs pros, ils sont avant tout des particuliers qui prennent des habitudes et ils s'informent. Hein. Ils s'informent sur YouTube, ils s'informent, etc. Et les avis, même les avis, alors pas forcément avec un nombre d'étoiles sur Google ou Trusted Shop ou ce qu'on veut, mais les avis ont leur importance, hein, la tonalité, hein, qui est donnée. Ça, ouais. C'est, faut pas le mésestimer, ça. Hein.
Ouais, c'est vrai que Chantal, tu le disais dans la préparation que pour toi, travailler les réseaux sociaux, c'était important pour construire une communauté qui aime la marque, hein, c'est ça?
Mais c'est ça. En fait, plus la marque est forte, plus les gens viennent, les revendeurs viennent directement sur le site internet, et de ce fait-là, on a moins besoin des commerciaux, quoi. Les boutiques arrivent toutes seules et elles peuvent commander en ligne selon un stock. On peut les conseiller également avec des best-sellers, et ça c'est important pour les revendeurs. Et effectivement, Jean-Paul parlait du prix. Si on valorise bien sa marque, on valorise bien ses produits, on propose des bons produits qui vont bien se revendre dans les boutiques, ben, le prix il est moins important, quoi, hein, ou on peut plus facilement l'augmenter aussi.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Moi, je suis super d'accord avec Chantal sur la marque. Je pense qu'en B2B, c'est quelque chose qui est encore trop négligé par beaucoup trop de marques. J'ai l'impression que de plus en plus, on a besoin de créer du rêve, d'envoyer des paillettes aussi, comme on fait en B2C. Même si on vend des machines-outils, je pense que c'est important. Et, moi, j'avais eu un petit échange là, il n'y a pas très longtemps, avec la responsable com de Kiloutou. Elle me disait que de plus en plus, eux, ils se tournaient vers la vidéo, notamment. Oui. À la fois, je pense, pour s'adapter un peu aux jeunes générations qui sont quand même beaucoup plus biberonnés à la vidéo que nous, on l'était. Hein. Je ne sais pas quel âge on a tous, mais on est tous, je suis sûr, d'avant les années 80. Voilà. Et donc, je pense que ça devient vraiment important d'explorer des voies comme ça. Et c'est vrai que c'est une manière de communiquer qui est différente, qui est sans doute un peu plus onéreuse, mais qui est de plus en plus recherchée. Et je crois que c'est ça qui peut faire la différence. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui font ça aux États-Unis. Enfin, il y avait Avec Caterpillar, par exemple, vous savez, les tractopelles et les engins sur chenilles, ils ont fait énormément de vidéos à une époque et c'était vraiment génial parce qu'en fait, on voyait les engins bouger dans des mines, dans des chantiers, etc. Et vraiment, ça envoyait du rêve, hein, si on peut dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Justement parce que sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est vraiment le langage aujourd'hui universel, beaucoup plus que l'écrit et encore plus que la photo. Même si ça coûte un petit peu plus cher, effectivement.
Ouais, c'est vrai que moi, souvent, quand je regarde des produits, j'aime bien regarder les produits donc, sous tous les angles, etc. Mais j'aime bien regarder la petite vidéo. Mais justement, avec l'IA et des outils comme Sora, moi, je me suis amusé pour une petite e-commerçante là, qui vendait en fait, des bijoux personnalisés, une petite créatrice. Et c'est vrai que je lui ai montré, bah, regarde, utilise Sora qui est ChatGPT, tu prends ton image de ton mannequin qui tient le truc et tu dis, ben voilà, fais-la danser de manière joyeuse. Et elle lui a fait une petite vidéo. Bon, alors bien sûr, il y a le coût écologique, le coût économique, etc. Mais c'est vrai que ça donne tout de suite un petit truc en plus, quoi. Un petit truc en plus.
Ouais. Ah oui, oui. Ouais, je trouve que c'est super important.
Oui, et même, puisqu'on est sur du B2B, je vois, nous, on a un client dont le métier, c'est la pré-industrialisation pour l'industrie pharmaceutique. Hein, c'est-à-dire qu'ils prennent des molécules et ils en voir si quand on en produit un gramme, un kilo, 100 kilos ou une tonne, on a toujours la même qualité de la molécule. Bon, c'est tout de même ça, si c'est pas du B2B. Et c'est un marché mondial, etc. Et il n'empêche que une bonne partie de la communication se fait au travers des réseaux sociaux. Alors, ils font pas de e-commerce, hein. Quoique, ils génèrent tout de même pratiquement tous leurs contacts pour leur force de vente par leur site internet. Hein. Donc, on n'a pas transactionnel, mais on a au moins des demandes de devis. Et notamment la demande de devis, c'est clairement un outil où l'IA est intéressante, hein, parce que elle permet de répondre plus rapidement et de façon, quoi, si on fait bien attention, de façon plus verrouillée que même des commerciaux. Hein. Et parce que on est dans un monde d'immédiateté, hein, merci à Amazon notamment. on est dans un monde d'immédiateté et donc maintenant les clients pro, ils veulent pour un devis de base, ils veulent avoir le résultat tout de suite. Hein. Ils ne veulent pas attendre une semaine qu'un commercial veuille bien les rappeler pour leur poser les questions auxquelles ils avaient déjà répondu via le formulaire de contact. Donc ça, c'est en effet les réseaux sociaux, etc. Et ce serait une erreur, en effet, c'est ce que disait Olivier et également Chantal, ce serait une erreur de se dire, oh ben moi de toute façon, oui, je vais faire un site de e-commerce en B2B comme on a un site de B2C. Hein. Il faut être beaucoup plus précis, pointu, et Olivier, c'est marqué dans mon bouquin sur B2B et digital, c'est que ce qui est prééminent, c'est la marque. On est entièrement d'accord, parce que la marque, ça limite le choix. Hein. L'objet d'une marque est de limiter le choix du marché. Hein. C'est-à-dire que quand des acheteurs, et surtout des acheteurs professionnels, il ne faut pas qu'ils se mettent à nous comparer à longueur de temps. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette préférence par rapport à la marque et de faire en sorte que il y a une adhérence très très forte, hein, par rapport à cette marque, par rapport au risque ressenti si jamais je change de prestataire, etc., etc., etc.
Alors il y avait un autre point qui était important que tu avais souligné, Olivier, c'était l'aspect mobile et l'optimisation pour le mobile. Alors si tu peux nous en dire quelques mots, parce que tu l'as dit, certains sites e-commerce sont anciens ou pas adaptés, et pour toi en fait le mobile responsive, enfin le responsive design est vraiment essentiel.
Oui, tout à fait. Bon, ça tombe un peu sous le sens, hein, j'allais dire. Mais cela dit, je me souviens, il y a quelques années, enfin, il y a longtemps maintenant, mais alors, e-commerce, quand on parlait de mobile, il y a des gens qui me disaient, mais non, c'est pas la peine, c'est trop compliqué, les gens n'arriveront pas à commander dessus, etc. Et pour le B2B, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que aujourd'hui, quand on est acheteur ou revendeur, ou en tout cas qu'on achète en B2B, on veut pouvoir avoir accès à l'information en temps réel et tout de suite, immédiatement, où qu'on soit. Et c'est là que le mobile prend tout son sens. Alors c'est vrai que ça peut être envisagé comme un surcoût par rapport à un site e-commerce classique, même si la plupart aujourd'hui sont responsives, mais il y a des technologies comme, moi j'aime bien parler des PWA, ce qu'on appelle les Progressive Web App, qui est une technologie vraiment intéressante parce qu'elle permet, avec un seul code source, c'est-à-dire avec une seule application, d'avoir son site web mobile, son application mobile. Et là, ça prend vraiment du sens par rapport à sa clientèle, parce qu'on est capable d'offrir en fait vraiment du service, du produit, en mode multicanal dans toutes les situations. Donc oui, je pense que c'est un aspect important de l'expérience client en B2B. Bon, c'est en train de changer, hein. Je pense que tout le monde a compris que la plupart du temps, la plupart des gens passaient 3 à 4 heures par jour sur leur téléphone mobile, hein. C'est quand même énorme. Donc il faut aller aussi les chercher là où ils sont et ça prend du sens. Donc c'est un point important, je pense, quand on fait du e-commerce, de considérer la question. Même si il est sans doute pas possible de tout faire sur mobile. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait des processus d'achat qui sont quand même des fois beaucoup plus complexes, voire très complexes en B2B. Sur une interface mobile, on ne peut pas tout faire. C'est pas vrai, mais on peut quand même arriver à faire pas mal de choses, donc il ne faut pas la négliger.
Ok. Alors, à moins que vous ayez encore un ou deux conseils, je vous propose de passer aux erreurs à éviter, puisque là, on a vu le côté positif. Mais vous qui avez une belle expérience d'e-commerce B2B avec pas mal de clients différents dans différents secteurs d'activité, quelles seraient en fait les erreurs à éviter? Je ne sais pas, Chantal, est-ce que tu veux nous indiquer pour toi quelles sont les 3-4 erreurs à la fois stratégiques, hein, pas forcément sur le site e-commerce, mais par exemple sur la distribution qu'il faut éviter et que tu recommanderais d'éviter à un e-commerçant?
Oui, alors moi, pour le B2B, en tous les cas, moi j'insisterai sur bien prendre les besoins de ses clients. Tout d'abord par des sondages pour voir réellement de quoi ils ont besoin, et ensuite je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une réelle discussion qualitative avec ces revendeurs pour vraiment identifier ce qu'ils ont besoin. Et c'est pas du temps perdu de discuter avec ses clients pour faire vraiment du qualitatif. Et le client lui-même se sent considéré lorsqu'on l'interroge, puisqu'il est pris à partie sur son besoin et ça le sensibilise. Donc commercialement, c'est toujours intéressant. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à organiser des rendez-vous téléphoniques, même si aujourd'hui le téléphone n'est plus trop à la mode, même dans les jeunes générations, mais on arrive à obtenir vraiment du qualitatif et au final, sur des besoins comme ça, ben, les gens y répondent et ils sont très sensibilisés.
Ouais. Et tu parlais également de l'importance de bien gérer son réseau de distributeurs et la sectorisation. Attention, surtout si on est à l'international, des choses comme ça, faire attention à la zone de chalandise et aux exclusivités, aux choses comme ça qu'il faut pouvoir retrouver aussi sur le site.
Bien sûr, alors la différence effectivement en B2B, c'est que bien souvent on a une inscription de revendeur, mais ensuite on vérifie en fonction de ces critères, en fonction de la zone géographique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile de voir où est le revendeur, quelle est sa boutique, quelles sont les autres marques qui vendent avec les réseaux sociaux, la localisation géographique, etc. Donc, on a des outils qui permettent de voir ça assez facilement et de plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui aide encore.
Ouais. Et à l'inverse, si on se met de l'autre côté et non pas du côté vendeur, mais quand on va chercher son prestataire, tu disais que c'est important de vérifier les références et d'avoir des spécialistes. Dis-toi, Olivier, tu as une sacrée expérience dans l'UX et l'optimisation des sites web. Pour toi, Chantal, c'était vraiment essentiel de vérifier qu'il connaît bien le secteur d'activité et les spécificités du B2B.
Bah oui, je pense que les avis des clients, c'est très important. Et en B2B, c'est la même chose. Hein, des prestataires, il y a de nombreux prestataires. Et je pense que c'est très important d'avoir vraiment des références d'autres clients qui ont travaillé avec ces entreprises et ces personnes, parce que les personnes aussi ont leur importance. Donc, d'avoir vraiment un retour d'expérience validé chez ces autres.
Ouais, avec de pouvoir appeler des références, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment un gage de qualité, d'avoir quelqu'un qui va te faire un retour et non pas une vidéo ou un truc comme ça qui est toujours un peu impartial.
Absolument.
Alors, du côté des erreurs à éviter, toi, Jean-Paul, tu nous as quasiment mis une dizaine d'erreurs à éviter.
Bon, ouais, je vais juste me limiter Je vais juste me limiter aux deux erreurs les plus importantes. C'est un.
Ah non, mais tu peux, après tu pourras en détailler d'autres, au contraire.
Bon, c'est se dire, oh, bah, de toute façon, moi, dans mon secteur, le e-commerce, ça ne m'impactera pas. Oublions ça. Le deuxième erreur, c'est de se dire, oh, bah, je vais refiler ça aux stagiaires, ça va être facile. Non, ça va coûter beaucoup d'argent et ça va être difficile. Le troisième, c'est de somnubiler sur la techno. Ça n'est pas un problème de techno. Bien sûr, il y a la techno, hein, on est d'accord. Et Olivier avait raison de le souligner. Également par rapport aux prestataires du côté de Chantal, mais c'est avant tout du commerce. Hein. Donc, il faut réfléchir commerce, hein, et être orienté client. Hein. Et il faut essayer de voir ce que peut apporter le e-commerce en plus, en mieux, en différencié par rapport à ses clients. Et ça n'est qu'en ayant répondu à cela qu'on peut sereinement mettre sur la table ces exigences, hein, parce que il faut pas croire que un prestataire, quel qu'il soit, et notamment des gros prestataires qui disent qu'ils ont tout fait et qu'ils ont tout vu, on va pas les citer bien sûr, parce qu'ils sont tous très gentils, mais en fait c'est votre projet, surtout en B2B. Donc c'est votre projet et donc il va falloir y travailler, et surtout le e-commerce est un moyen, ça n'est pas une finalité. C'est ça le plus important.
Ouais. Et tu dis aussi l'application du top management, et moi je te donnerai un excellent exemple. Oui. Quand j'avais mis en fait en place justement un bot avec Aqualux, c'était connecté à leur système d'information, mais il y avait un web service à faire. Et c'est vrai que si tu n'as pas le top management qui dit « Ok, allez, on investit, on prend du temps, on demande à l'informatique de faire du dev », bah finalement, tu mets en place un site qui ne correspond pas aux demandes de l'acheteur B2B. Qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser une fois, ça sera peut-être une deuxième chance, mais après, c'est foutu. Donc, il faut vraiment avoir ce soutien-là, investir et pas le lancer trop tôt ni trop tard, parce que je dis toujours que pour moi, le digital ou l'e-commerce ou une offre, peu importe, c'est un fusil à deux coups. Tu peux lancer une fois. Si tu loupes la cible, c'est pas grave. Tu peux avoir une deuxième chance, mais la deuxième chance, il ne faut pas la louper. Autrement, le gibier, il passe, quoi. Alors, pour toi, Olivier, quels seraient tes conseils, erreurs à éviter, en tout cas, les erreurs à éviter?
Les erreurs, alors j'ai repensé, je me disais sur la techno, c'est vrai que l'idée, c'est une solution e-commerce, c'est important de faire le bon choix. Mais une erreur, peut-être que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais ce qui est une vraie surprise souvent chez les clients, c'est le coût d'un budget de e-commerce. Mmh. On a tendance à vraiment le sous-estimer. Alors, c'est un peu malheureusement parce qu'il y a une espèce de jeu qui se fait souvent entre prestataires et clients. Et chacun essaie pas de tirer les coups, mais on essaie de trouver un compromis qui paraisse raisonnable. En réalité, sans mentir, on déborde souvent en fait, parce que souvent on sous-estime la complexité d'un projet. Le B2B est encore plus compliqué que le B2C. Et donc, il faut savoir que quand on se lance là-dedans, alors. Bien sûr, je pense que la plupart des gens y sont déjà, mais en tout cas, je pense que ceux qui, par exemple, refont leur site ou font un projet de replatforming, etc., il ne faut pas sous-estimer en fait ça, et pas sous-estimer le temps aussi que ça peut occuper de refondre un site ou d'en faire un. C'est quand même extrêmement important. Et puis après, la deuxième erreur, mais ça c'est parce que moi je suis un indécrottable UX, c'est de toujours de pas assez écouter en fait ses clients, ses prospects, etc. Ça c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver souvent. Bon, moi c'est mon métier évidemment de faire attention à ça, mais on est tous affectés par des biais cognitifs, et un des biais principaux qu'on a tous, c'est qu'on croit toujours savoir en fait. On pense avoir suffisamment d'expérience pour connaître d'avance les réponses. Et justement, moi, l'expérience montre que souvent, même si on est tous plein de sagesse et plein d'expérience et de compétences, si on ne va vraiment pas au fond des choses quand on essaie de comprendre comment les gens achètent sur son site, comment ils se comportent, et si on ne va pas dans le détail, et si on ne les écoute pas assez, ou si on croit les écouter mais qu'on ne les écoute pas, ce qui est encore plus grave et qui arrive quand même beaucoup plus souvent, on passe à côté d'opportunités intéressantes. Et donc ça, je pense que ça reste le sel. Mais je suis d'accord avec Jean-Paul, en fait, ça reste du commerce, et c'est ça qui est important. Le commerce, c'est la relation entre personnes, même si c'est beaucoup digitalisé, en fait, c'est ça qui est important. Et donc, il faut essayer de comprendre chaque client, Et ça demande de l'énergie et puis de l'investissement qu'il ne faut pas forcément négliger.
Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a quelques temps de cela, on a refondu le site web. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, il n'y avait pas vraiment une personne qui était 100% responsable du projet. C'était un petit peu toi qui faisais un peu le SEO, toi qui faisais les fiches, etc. Et tu n'avais pas de pilote dans l'avion. Et c'est vrai que quand tu n'as pas un pilote dans l'avion, un responsable, et ben forcément, ça dilue les responsabilités et les gens sont beaucoup moins efficaces. Et il faut vraiment, pour moi, c'est ça, il faut être un chef de projet. Et le deuxième point, et ça, je le dis toujours, il faut toujours prévoir dans ce genre de projet 15% minimum de budget en plus qu'il ne faut pas annoncer, bien sûr, à son prestataire. Il faut le garder derrière.
Moi, je dis 20%. Moi, je dis 20%, mais oui, 15%.
Ah, moi, je dis 15%.
Parce que c'est vrai.
C'est toujours ce qui arrive parce que, comme tu dis…
En budget et en budget de temps aussi, hein.
Oui, au budget de temps. Ah oui, pour moi, c'est toujours pas. Alors, le temps encore, ça va. Enfin, sauf si tu as la pression de ta direction.
Non, c'est de l'argent.
Ouais, mais en interne, tu peux faire bosser les gens sur d'autres trucs, négliger des choses. Par contre, je trouve que ce qui est plus compliqué, c'est quand tu n'as pas prévu cette petite poire pour la soif, là, c'est la tension, c'est le stress, parce que le prestataire, il dit que je commence à perdre de l'argent, et puis la relation se dégrade, et puis c'est là qu'on sort le contrat. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc, je trouve que dans le B2B, que ce soit dans l'e-commerce ou dans le site statique, c'est qui fait quoi, à quel niveau de prestation. Et souvent, c'est, je dis toujours, c'est le diable qui se cache dans les détails. Il faut vraiment aller retravailler là-dessus, dire qu'est-ce qui fait quoi, quelle est la démarche, etc. C'est
gestion de projet et bâtir un cahier des charges fonctionnel avec une expression des besoins. Et voilà.
Hein. Ouais, enfin, ça c'est…
Un petit clin d'œil à David.
C'est du classique.
Et oui, c'est du classique, oui, mais malheureusement, ça manque souvent. Il hein ouais, faut bien dire ce qui est, comme l'application client, Olivier, hein, c'est pareil.
Moi, je dirais que tu parles de cahier des charges, et c'est pas toujours facile, en fait, hein, d'en faire un. Il y a beaucoup de… On a été coupé ou non?
Non, j'étais en train de chercher des enfants.
Je vais y aller. Alors, je disais, je pense que c'est quand même pas quelque chose d'aussi facile que ça. De faire un cahier des charges. Souvent, les entreprises ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Et puis après, attention, parce que moi, je considère qu'un cahier des charges, ça peut être aussi trop contraignant parfois. Donc, il faut quand même arriver à trouver une forme d'équilibre. Là, je parle de refonte de site, en tout cas, entre du net et du flou. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir aménager des marges de manœuvre pour ne pas tomber dans le panneau du « je veux exactement cette fonctionnalité à tel endroit », etc. Parce que souvent, c'est quand on fait le projet qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus complexes à faire que ce qu'on avait imaginé. Et des fois, l'inverse est vrai aussi. Des fois, ce qu'on avait imaginé quelque chose, on pensait que ça prendrait 10 jours et puis ça prendrait une journée. Bon, c'est plus rare quand même, ce cas-là.
On l'a assez rarement, celui-là.
On l'a plus rarement, ouais. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, de toute façon, sur cette partie techno, en tout cas… C'est clair qu'il faut garder une espèce de souplesse d'esprit mentalement qui consiste à se dire que tout n'est pas faisable, tout n'est pas possible, tout ne peut pas être fait rapidement et il faut savoir avancer progressivement. Et ça, c'est pas forcément facile. Je sais, quand on a un budget à gérer, où on nous a donné telle somme, pas plus, pas moins, d'arriver à faire des choix, des compromis, de choisir telle fonctionnalité plutôt qu'une autre, ça reste compliqué. Et c'est pour ça aussi, sur ce que tu disais, Frédéric, que c'est important d'avoir un product owner, en tout cas un gestionnaire de projet, sur des sujets comme ça, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui soit capable de centraliser l'information, qui comprenne tous les enjeux et qui puisse faire des bons choix.
Ouais. Alors, juste pour finir, est-ce que vous pouvez juste en quelques minutes reparler de vos entreprises et de vos activités? Alors, je laisse commencer par Jean-Paul cette fois. Alors, je te laisse te présenter à nouveau et rappeler si on veut en savoir plus sur toi. On va sur quel site web et rappelle-nous ce que tu fais comme prestation.
Nous, notre prestation, c'est assez simple. Donc, vu qu'à stratégie, il suffit d'aller sur mon nom, Jean-Paul Crène, sur LinkedIn, ça, c'est encore le plus simple. Et nous aidons les entreprises à créer de la valeur avec le digital. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, choisir les bons outils, les bonnes approches stratégiques.
OK. Alors, Olivier, je te laisse aussi parler de Wexperience.
Ouais, Wexperience.fr. Nous, en fait, on a deux métiers, on a deux casquettes. On est développeur de sites web, e-commerce essentiellement, et on est agence UX, donc on fait du design de site, on fait de l'étude, et on fait ces fameux tests utilisateurs dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Donc, en fait, on accompagne les entreprises à faire leurs interfaces digitales. Je parlais de sites web, mais on fait aussi des applications métiers, hein, c'est aussi tout à fait de l'ordre du possible. Et si je peux me permettre, si je peux faire une petite page de pub pour un nouveau truc qu'on est en train de lancer,
parce que
ça m'éclate et que j'ai hâte de trouver des utilisateurs. On est en train de développer une plateforme de création et de planification de posts pour les réseaux sociaux, avec de l'IA, évidemment. Ça s'appelle Oscar, et on a déjà développé une première version, et on est en train de chercher des bêta-testeurs, en fait, pour l'utiliser. Donc, n'hésitez pas, si c'est un sujet pour vous, à me contacter pour que je vous présente le produit et puis voir si vous pouvez devenir bêta-testeur ou pas. Voilà, merci.
Alors Chantal, tu veux dire quelques petits mots ?
Oui. Ben, Chantal Marie, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et là, actuellement, je participe avec Jean-Paul à Fedeo à recruter des e-commerçants dans notre association pour organiser des réunions très intéressantes et formatrices pour ces e-commerçants.
D'Occitanie.
En Occitanie, tout à fait.
En Occitanie. Ouais. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains ateliers sur le numérique Essimo, donc l'association qui édite un annuaire des leaders du web et qui ont fait le web et fait avancer le web en France. Donc, on se retrouvera en juin pour Women in Tech, la sobriété numérique, comment choisir sa bonne IA entre Diptyque, ChatGPT, Claude, Mistral, etc. Ça sera en avril. Comment augmenter sa résilience? Actuellement, ça devient un sujet clé. Comment lutter contre la saturation des audiences? Là, c'est certes le la stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'un bon CRM et une bonne relation client à l'ère de l'IA? Et bien entendu, le duo humain-IA. Et on se verra également pour le no-code. Donc, merci encore une fois à tous. Merci pour votre participation.
Merci.
Et je vous remercie à tous ceux qui ont assisté à ce live. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Et à bientôt.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.